Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non. Hélas, non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Comment les bébés apprennent-ils leur langue avant de savoir parler? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec Sharon Pepperkamp. Sharon Pepperkamp est directrice de recherche au CNRS, au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques. Elle est aussi membre du Babylab de l'École normale supérieure à Paris. Ses recherches portent sur l'apprentissage de la langue maternelle chez les bébés lors de leur première année d'existence.
Ouais, c'est une période où tout se met en place. C'est assez merveilleux, le bébé, il vient au monde, il entend déjà très bien, il voit très mal, mais il entend très très bien. Et au cours des 12 premiers mois de vie, il apprend tout un tas de choses sur sa langue maternelle ou sur ses langues maternelles, même avant de commencer à parler. Donc évidemment, si les bébés commencent à dire leurs premiers mots vers 12 mois, c'est qu'il ou elle a déjà compris tout un tas de choses. Et donc c'est ça ce qui est fascinant, comment se développe le langage chez les bébés dans la première année, je dirais.
Sharon Pepperkamp s'intéresse donc à l'apprentissage du langage chez les bébés avant qu'ils ne parlent. Les premiers mots émergent en moyenne vers 12 mois. Mais nous savons aujourd'hui que l'acquisition du langage démarre bien plus tôt, in utero. À la naissance, les bébés savent déjà reconnaître la voix de leur mère, leur langue maternelle, et ils savent discriminer deux langues pourvu qu'elles soient rythmiquement différentes. Mais comment font-ils pour apprendre si facilement et si rapidement leur langue maternelle? C'est la question que s'est posée Sharon Pepperkamp. La tâche des bébés relève de l'exploit, puisqu'au départ, ils entendent des sons dépourvus de sens. Et l'un de leurs défis consiste à comprendre où commencent et où finissent les mots. Alors, comment s'y prennent-ils?
Ils n'entendent que le signal acoustique. Ils n'entendent pas comme nous. Nous, on entend une suite de mots, disons. Ouais. Mais peut-être l'exemple le plus parlant, c'est justement c'est le découpage des phrases en mots. Donc nous, quand on lit une phrase, on a de la chance parce que les mots sont séparés par des petits blancs. Okay. Quand on a un signal acoustique, les mots ne sont pas séparés par des petites pauses. Il n'y a pas de silence entre les mots.
Non, on ne parle pas comme ça.
Oui. On a peut-être l'impression qu'il y a des petits silences, mais c'est parce qu'on reconnaît les mots. On reconnaît les mots au fur et à mesure que la phrase se développe. On a d'autres indices. Donc, par exemple, si je vous dis « yaourt léger » et vous ne connaissez pas ni le mot « yaourt » ni le mot « léger », alors vous pouvez quand même savoir qu'il doit y avoir une frontière de mots entre « yaourt » et « léger » parce qu'en français, un mot ne peut pas commencer par « tle ». Donc, forcément, il doit y avoir une frontière de mots. OK. Et donc, les bébés, ils n'ont pas ça.
Non.
Et on peut se mettre un tout petit peu dans la peau du bébé. je peux vous prononcer une phrase en néerlandais, ma langue maternelle, et vous allez vous rendre compte que c'est ultra difficile de comprendre où commencent les mots et où se terminent. Donc, voilà la phrase. Misschien komt het door de sneeuw dat ik me 's morgens al zo moe voel.
Rien. J'ai aucun indice.
Rien.
Donc ça, c'est voilà. Ce qu'entendent les bébés.
Ça, c'est ce qu'on entend les bébés, mais c'est encore un tout petit peu différent parce que les bébés, ils ont cette capacité à entendre n'importe quel contraste entre des sons. Donc, ça, autre chose que je dois vous expliquer. le répertoire des voyelles et des consonnes dans les langues, c'est extrêmement variable.
Oui.
Et à la naissance, les bébés ont cette capacité à percevoir n'importe quelle distinction compliquée, toute petite distinction entre deux sons. Donc, je vais vous donner à nouveau un exemple. En tamoul, il y a des consonnes qui sont dentales, te, ne, le. Il y a des consonnes qui sont rétroflexes, avec la pointe de la langue qui est courbée vers le palais, un peu vers la partie postérieure. Et donc, c'est te, ne, le. Bon, donc voilà. Donc, contraste entre te, te. Vous entendez ?
J'entends.
Vous entendez ?
J'entends parce que j'ai fait du russe et qu'il y a des choses similaires.
Je suis désolée.
Ok.
Bon, ce n'est pas grave.
Non, mais vous comprenez. Je comprends ce que vous voulez
nous,
dire.
Pour nous, la différence entre peu et beu, entre pain et bain, ça saute aux oreilles. Tandis que la différence entre te et te, et, attendez, te et te, c'est super compliqué. Pourtant, acoustiquement, ce n'est pas une distinction plus fine que celle entre peu et beu. Donc, à la fin de la première année de vie, les bébés, ils ont déjà perdu cette capacité à discriminer ces contrastes qui ne sont pas utilisés dans leur langue.
C'est ce qu'on appelle l'élagage, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser seulement ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que si à la naissance, les bébés peuvent apprendre n'importe quelle langue,
oui.
Ils vont se spécialiser,
oui.
C'est ce qu'on appelle l'élagage, c'est ça. Les bébés se spécialisent sur les langues, une ou les plusieurs
oui.
Langues qu'ils entendent autour d'eux.
Oui, tout à fait. Et donc, ce qui est quand même marrant à observer, c'est qu'à 12 mois de vie, ils sont déjà comme leurs parents. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais pour ce qui concerne la perception des contrastes entre les consonnes ou entre les voyelles, ils ont déjà les difficultés qu'ont aussi les adultes.
C'est ça, donc c'est au cours de cette première année qu'ils vont perdre
oui.
Cette oreille fine, en fait.
Oui, oui.
Oui.
Donc, on continue. Donc, ce pauvre bébé qui
oui.
Vient au monde,
oui.
Il ou elle nous entend parler,
mm-hmm.
Ne sait pas qu'il y a des mots, n'est pas capable de distinguer les mots à l'intérieur d'une phrase.
Mm-hmm.
Il ou elle entend
oui, très bien.
Un flot continu
oui.
De sons.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ils se débrouillent?
Bon, déjà pour une, on sait que les bébés, ce sont des petits génies statisticiens. Ils sont très très forts pour faire des calculs, inconsciemment évidemment, sur tout ce qui se passe dans l'espace acoustique, donc notamment sur les sons. Donc par exemple, quand on a, en anglais, on a des voyelles qui sont relativement semblables, I et E. Donc quand je dis sheep, je veux dire mouton. Quand je dis ship, je veux dire bateau. Et donc, en français, il n'y a pas ça. Il y a uniquement les i de ship. Mais il se peut que parfois, je glisse un petit peu et je prononce quelque chose qui est un tout petit peu plus proche de e. Voilà, ça peut arriver. Et donc, ce que peuvent faire les bébés, c'est qu'ils peuvent stocker les informations acoustiques sur ces voyelles et ils peuvent voir qu'il y a des espèces de nuages d'exemplaires autour de ce qu'on appelle un prototype. Donc, pour les bébés anglais, il va y avoir un nuage autour d'un « i » très très clair et un autre nuage autour d'un « e » très très clair. Tandis qu'en français, il n'y aura pas ça. Il y aura quelque chose qui est plus vaste, qui prend plus de place dans cet espace acoustique. Donc, pour eux, il va y avoir qu'un seul nuage d'exemplaires. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'ils peuvent commencer à construire le répertoire des sons dans leur langue.
Ce que vous êtes en train de me dire, Sharon Pepperkamp, c'est qu'au départ, ce sont des nuages comme ça, où il y aurait une récurrence de voyelles.
Ouais, bah au début, il n'y a rien. Il faut que le bébé construise ses nuages dans sa tête, dans son cerveau. Il faut qu'il stocke tout ce qu'il entend pour pouvoir faire ses calculs là-dessus.
Et construire d'abord ses nuages.
Ouais.
Donc ça veut dire que le bébé stocke, c'est-à-dire ouais. que dans ce flux de sons qui lui arrive...
Oui, le bébé stocke.
Moi, j'aime beaucoup l'idée des nuages parce que ça nous donne une idée de comment le bébé va ciseler d'une certaine façon ouais. sa perception.
Oui.
Parce que le nuage, on voit bien la forme de nuage un peu évanescent ouais. avec donc des sons,
oui.
des phonèmes
oui.
qu'il regroupe.
Oui, donc chaque nuage représente un son. Et donc, il y a des langues... où cet espace acoustique ne contient que trois voyelles, I, A, U, et il y a des langues, comme le français, où il y en a 14. Donc il faut déjà il faut découper cet espace acoustique soit en 14 petits nuages, soit en trois plus gros nuages.
D'accord.
Ou soit quelque chose entre les deux, évidemment. Moi, je donne deux exemples, mais la plupart des langues, d'ailleurs, ont cinq voyelles. Ni 3, ni 14, mais quelque chose d'intermédiaire.
Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ces nuages se constituent autour des voyelles d'abord. Plutôt autour des voyelles.
Non, je parlais des voyelles, mais j'aurais pu parler des consonnes aussi.
D'accord, ok. Donc on parle de sons.
C'est
les
vrai,
nuages,
oui,
c'est
oui.
autour des sons.
C'est vrai que les voyelles ont plus d'énergie, sont acoustiquement plus saillantes. Donc les bébés apprennent d'abord les voyelles de leur langue et après plutôt les consonnes. Les voyelles, c'est vers 6, 7, 8 mois. Les consonnes, c'est entre 10 et 12 qu'il y a vraiment cette spécialisation.
Alors, ça veut dire, Sharon, qu'avant 8 mois, avant 10 mois, avant de cette spécialisation,
oui.
le bébé analyse en permanence ce qu'il entend et essaie de structurer
de... Bah, de toute façon, c'est ce que les bébés font tout le temps. Hein, et pas uniquement sur les sons, d'ailleurs. Parce que là, on parle des sons. Et on en parle un petit peu comme si d'abord il y a les sons, après il y a les mots, après il y a les phrases.
Ouais.
Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus d'interactions.
Sharon Pepperkamp travaille sur le développement du langage chez les bébés de moins d'un an. Et elle ne cesse de s'émerveiller de leur capacité. Elle trouve cela fascinant. Est presque miraculeux que les bébés réussissent à apprendre leur langue maternelle tellement ils doivent surmonter d'obstacles pour y arriver. À l'écoute de Sharon Pepperkamp, je comprends que lors de leur première année de vie, les bébés passent leur temps à analyser et à structurer ce qu'ils entendent.
Alors si on continue, donc j'ai mes nuages de sons avec... quelques mots que le bébé connaît et repère.
Ouais.
Papa, maman,
ouais.
biberon.
Ouais. Et pourquoi pas biberon ? Très bon exemple.
Très bon exemple, biberon.
Oui.
Et donc, à partir de ces mots-là,
oui.
qu'est-ce que le bébé va faire ?
Okay.
Il ne parle toujours pas, on est d'accord.
Ah non, il ne parle pas. Ah non, quelle idée.
Ce serait trop simple.
Oui. Bah, par exemple, connaître quelques mots, quelques formes de mots, ça permet aussi... de segmenter d'autres mots. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience quand on entend une langue étrangère et tout d'un coup, il y a un mot qui est pareil en français. Et donc, ça saute aux oreilles, on reconnaît ce mot-là et donc ça permet de savoir, ah, donc ce qui suit, ça doit être le début d'un nouveau mot ou ce qui précède, c'était la fin d'un autre mot. Là, il y a vraiment des études qui ont été faites avec les bébés où on montre qu'ils utilisent les mots qu'ils connaissent déjà pour commencer à segmenter ce qu'il y a autour.
D'accord, donc vers 7-8 mois, il ou elle,
mm-hmm.
le bébé, il repère le mot qu'il connaît, biberon.
Il va réussir plus facilement à extraire le mot qui suit des phrases.
Et c'est comme ça qu'il va commencer à repérer les mots dans une phrase.
C'est l'une des stratégies à sa disposition.
Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres.
Lesquelles ?
Alors, d'autres stratégies statistiques à nouveau.
Oui, parce que le bébé, il ou elle, est un grand statisticien.
Un master de la statistique.
Un génie, de ce point de vue-là.
Un génie, tout à fait. Donc, par exemple, prenons le mot canard. Imaginons que canard, c'est un mot qui est assez fréquent d'ailleurs dans le langage parlé au bébé. J'imagine qu'il y a tout le temps des petits jouets canards
dans
la baignoire. Et donc... Ça veut dire que la syllabe ka est très souvent suivie de la syllabe nar.
Oui.
Ok, canard, canard ceci, canard cela, canard jaune, ton canard, le canard est dans la salle de bain, où est le canard, etc., etc. Ok, donc ka, c'est très souvent suivi de nar. Mais nar, dans canard, ça peut être suivi de jaune, hein, ou de haie, ou de canard dent. Donc ça peut être suivi de beaucoup plus de syllabes. Et donc là, je simplifie énormément pour essayer de faire comprendre que le bébé peut travailler sur les probabilités de transition entre les syllabes.
C'est-à-dire que le bébé repère que ka et nar souvent se suivent.
Oui.
Et que ça
plus
doit...
Plus souvent que nar est jaune.
Ou que nar est dent.
Oui.
Ou que nar vole.
Oui.
Ou,
oui.
Voilà. Et okay. Donc, à partir de là...
Ils peuvent se dire, ah, mais canard, probablement, c'est un vrai mot.
Et c'est comme ça que le bébé, il ou elle, va avancer dans son apprentissage du langage. C'est-à-dire, il va repérer les sons qui se reproduisent ensemble le plus fréquemment,
oui,
pour peut-être se dire que là,
oui,
il y a une entité, en fait.
Exactement. Et justement, nous, ici, au laboratoire, on a fait des expériences qui montrent que c'est probablement comme ça, en partie, que les bébés font. Et comment on a fait ça? On a testé leur reconnaissance des vrais mots comme canard, biberon, chaussure, voiture, donc des mots très fréquents. On mesure l'attention des bébés pour ces mots-là. Et à côté, on leur fait entendre des petites séquences de deux syllabes qui sont aussi ultra fréquents dans la parole qu'ils entendent, mais qui ne sont pas des vrais mots. Donc, par exemple, « mets-tu » ou « veux dire » ou « corin ». Donc, vous avez entendu, donc « mets-tu »,« mais tu vas faire »,« corin » pour « encore une banane » ou « non, j'ai dit un, « encore un
gâteau,
un gâteau, merci », voilà, etc.
« Bonhomme »,« gâteau », »,« biberon ».
Alors, Sharon Pepperkamp me fait écouter les listes de mots que les chercheurs ont élaborées pour tester les bébés. Lors des expérimentations dans le Babylab de l'École normale supérieure de Paris, le bébé est installé dans une cabine insonorisée. Il est assis sur les genoux de l'un de ses parents et on met un casque sur la tête de l'adulte pour qu'il n'influence pas les réponses de son enfant. Dans la première série de sons, les bébés entendent des mots entiers.
Lapin, poupée, ballon, voiture, canard, chaussure, appel, chapeau, oiseau.
Dans la deuxième série de sons, les bébés n'entendent pas des mots entiers, mais des séquences de deux syllabes que l'on rencontre fréquemment en français.
Quoi ça veut dire? C'est pour. N'a plus. Va faire. Tous les. Pas sûr. Dans la. Corin. Vais pas. Mets-tu. À quel?
Et donc, on a montré dans cette expérience que le bébé ne distingue pas ces deux listes. Ils sont tout aussi intéressés par banane, chaussure, voiture, biberon que par mets-tu, veux dire, corin et quelques autres. Donc ça, ça veut dire que, en fait, ils ne distinguent pas ces deux listes. En revanche, si je prends la liste des séquences fréquentes mais qui ne sont pas des vrais mots, donc je prends mets-tu, corin, veux dire, et maintenant je les compare à, je vais inverser l'ordre des syllabes, donc ça va être dire veut,
rencontre,
encore, un an, bon,
rencontre,
ouais, on va dire comme ça. Et alors là, on voit que les bébés, ils préfèrent écouter les trucs qui sont vraiment fréquents. Ils préfèrent écouter mets-tu, veux dire, corin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, qu'ils ont déjà commencé à construire un répertoire de mots potentiels. Donc, ils ont stocké, quelque part, dans ce qu'on appelle un proto-lexique, toutes les séquences de deux, ou peut-être aussi de trois syllabes, qui sont très fréquentes dans ce qu'ils entendent. Et après, leur tâche, ça va être à nouveau de délaguer ce proto-lexique, de faire en sorte qu'il faut mettre dehors tous ces métus et védures et corins qui ne sont pas de vrais mots. Et il faut se focaliser sur banane, chaussure, voiture, parce que c'est là qu'il faut apprendre le sens.
Et après, qu'est-ce qu'on va faire après ? Après, je t'accompagne et tu vas marcher. On commence par le petit médicament et après la marque. Et après la purée et après le biberon. On fait comme ça ? T'as bien compris, hein ? Tu viens ? Tu viens ? On y va ? Allez, viens.
Passionnant.
C'est passionnant, n'est-ce pas?
Ah, ouais. je trouve ça passionnant. Hein. Parce que je suis impressionnée par ce cerveau, par cette attention, parce que c'est une attention de tous les instants. Enfin, j'essaie d'imaginer ce que c'est que d'être un bébé, d'entendre parler tout le temps
essayez
autour.
Essayez de vous en souvenir, vous avez été bébé.
Ouais, j'ai été bébé.
Incroyable. Et nous, en tant qu'adultes, mais même en tant qu'adolescents encore, on peine quand même à apprendre une deuxième langue. Bon, les adolescents, ils sont bien meilleurs que nous, à notre âge, hein, ça c'est sûr. Et les bébés, ils apprennent une, deux, trois langues sans aucun effort.
Et avec un effort extraordinaire. J'imagine que c'est des efforts.
Le cerveau, ça consomme de l'énergie. Il faut donner à manger au bébé. Il y a beaucoup de calories qui sont brûlées par le cerveau. Mais ce n'est pas un effort conscient. Ce n'est pas un effort que nous, on fait consciemment quand on apprend une deuxième langue. Et qui plus est, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de feedback. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé. Nous, quand on apprend une langue étrangère, la plupart des cas, on apprend parce qu'on a un livre d'instruction, on a un prof en face de nous, donc il y a quelqu'un, et on a une langue en commun avec cette personne. Donc on peut se comprendre dans une langue qui va nous aider à apprendre l'autre langue. Ça n'a pas de sens d'essayer d'expliquer des choses au bébé, parce que de toute façon, le bébé n'a pas de langage encore. Donc, on peut essayer de parler français au bébé pour expliquer comment fonctionne sa grammaire, combien il y a de voyelles ou de consonnes dans sa langue, que banane est un mot et une voiture aussi, et métu n'est pas un mot. Mais ça ne sert à rien, parce qu'on n'a pas de langue en commun avec les bébés.
C'est ça qui est dingue, et ça, j'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un apprentissage supervisé. Le bébé se débrouille tout seul.
Mais c'est le truc le plus important, ce que j'aurais pu dire dans la toute première minute. C'est ça ce qui est essentiel, c'est la différence essentielle entre les bébés et les adultes. Tout l'apprentissage du bébé est non supervisé.
Incroyable bébé qui n'ont pas besoin de professeurs pour apprendre leur langue. Dans le prochain épisode de notre podcast « Les super-pouvoirs des bébés », Sharon Peeperkamp nous expliquera comment les bébés font pour comprendre le sens des mots. Les super pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Deshaies, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Flora Bernard et écrit par Zoé Varier. Les super pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.